Je crois que Dieu veut nous dire quelque chose aujourd'hui. Je crois que la sermonnette nous conduit vers cela. Je crois que les chants ou l'interprétation du chant par Jessica nous conduit vers cela. Je crois aussi que les études bibliques que nous allons commencer est conduit vers cela. Et je pense que je vois un rapport entre ce que nous vivons, en ce que nous apprenons de plus en plus en tant qu'enfants de Dieu, avec une prière qui a été faite il y a environ peut-être 1980 années de cela, par l'apôtre Paul. Il a fait une prière pour les saints de l'Église de Dieu à Éphèse dans un but particulier. Il a écrit cette prière dans sa lettre aux Éphésiens, au chapitre 1, verset 16. Et cette prière est importante pour Dieu parce qu'il a voulu la consacrer dans les Écritures pour que nous la lisions et pour que, j'ajouterai aujourd'hui, que nous y croyions. Alors, qu'est-ce qu'il écrit au chapitre 1 à partir du verset 16? Il dit, « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, mes frères et mes sœurs, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, et nous avons chanté que le Seigneur de gloire va revenir, que le Père de gloire vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Nous connaissons assez bien l'esprit de sagesse. Connaissons-nous l'esprit de révélation dans sa connaissance. Verset 18. Dans sa prière, il priait aussi qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que tout ça dans la direction, dans l'intention, que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Et je crois, frères et sœurs, que nous sommes bénis parce que nous savons jusqu'à un certain degré la richesse de la gloire de son héritage lorsque nous focussons, comme un des cantiques que nous avons chanté, sur le fait que la trompette sonnera et qu'il y aura cette résurrection tant entendue à la gloire. Mais que voulait dire Paul plus spécifiquement par le mot « révélation » L'enfant de Dieu, comme vous savez, a reçu le dépôt de l'Esprit. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons souvent, je crois, demandé un esprit de sagesse à Dieu pour prendre certaines décisions dans nos comportements avec les membres de notre famille, au travail. Est-ce que nous demandons l'esprit de révélation? Nous recherchons aussi, frères et sœurs, la connaissance divine en étudiant la parole de Dieu, en la méditant, en la sondant pour l'approfondir et pour connaître ses ramifications dans la vie pratique de tous les jours, parce que nous voulons l'intégrer, nous voulons la faire nôtre. Nous voulons qu'elle soit une boussole pratique. N'avons-nous pas besoin, frères et sœurs, de voir les yeux de nos cœurs s'allumer par une communication d'esprit à esprit et de voir notre Père céleste augmenter en nous l'espoir de son héritage? Le premier mot du dernier livre des Saintes Écritures, c'est Apocalypse, traduit révélation. Apocalypse, révélation. Révélation de Jésus-Christ que son Père lui a donné. Alors même Jésus-Christ a reçu de son Père une révélation. Et c'est par son verbe révéler, parce que le mot apocalypse est un mot grec. Et il y a un verbe à ce mot-là qui est apocalypto, qui veut dire révéler. Et c'est par ce verbe-là qu'on peut retracer son équivalent dans la langue des Saintes Écritures en hébreu. En effet, nous retrouvons une importante citation du prophète Isaïe dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 12, versets 37 à 38. J'appelle ça le verset pont, un verset qui fait le pont du grec à l'hébreu, c'est-à-dire qui montre la continuité de la pensée de Dieu, parce que nous allons suivre un peu le courant de la révélation. Et c'est une conclusion, ou du moins une remarque que l'apôtre Jean va faire dans cet évangile, à partir du verset 37 au chapitre 12. Il dit « Malgré tant de miracles que Jésus avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. » Et pour reprendre un peu la pensée de la sermonnette, malgré toutes les manifestations envoyées pour dire « Hey, je veux t'aider, il est temps que tu sois sauvé », ils n'ont pas reconnu le Sauveur. Ils ne croyaient pas en lui. Afin que la parole qu'Isaïe le prophète a prononcée soit accompli. Seigneur, qui a cru à notre prédication? C'est assez intéressant parce que Jean, probablement, lorsqu'il écrit cet évangile, lui-même est impliqué dans la prédication, dans la prédication de l'évangile, de la bonne nouvelle que Jésus est le Messie, qu'il est venu, qu'il est mort pour nous, qu'il veut nous racheter, qu'il veut nous glorifier. Qui a cru à notre prédication? Et Jésus-Christ pouvait lui-même dire, « Père, qui a cru à ma prédication? À qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? » Voilà le mot-clé. « À qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? » Apocalypto. Et lorsqu'on retourne dans la citation d'Ésaïe, nous trouvons le verbe en hébreu « galal ». Galal. Et c'est notre mot-clé pour comprendre qu'est-ce que Dieu veut nous dire à travers ce mot-là. J'appelle pour vous, pas Galal, pardon, c'est Gala. Excusez-moi, c'est Gala, G-A-L-A-H. C'est un verbe qui est utilisé 188 fois dans les Écritures hébraïques. Il est utilisé dans le langage commun. Et c'est là qu'il faut commencer toujours à comprendre que Dieu d'abord rentre avec nous dans le réel pour éventuellement se révéler. Dans le langage commun des Écritures, ça veut dire découvrir. Et c'est en rapport avec d'abord, étonnamment, découvrir la nudité. Ça peut être choquant. C'est-à-dire la sexualité d'une personne, son intimité. Par exemple, le mot « gala » est utilisé 24 fois dans le chapitre 18 du Lévitique et 7 fois dans le chapitre 20 du Lévitique pour montrer les relations sexuelles interdites à ne pas dévoiler. Je lis rapidement pour vous, Lévitique 18, verset 6. « Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel, Gala. Tu ne découvriras point la nudité de ton père ni la nudité de ta mère, Gala. C'est ta mère, tu ne découvriras point sa nudité, Gala. » Et ainsi pour les 21 autres fois. Alors, D'abord, se révéler, c'est se dévoiler. Être révélé, c'est être dévoilé, être mis à découvert. C'est ce mot, donc, que Dieu a choisi, et c'est étonnant, pour décrire son désir de se faire connaître, pour se découvrir, pour être à découvert par les hommes faits à son image. Nous avons entendu tantôt que Dieu, nous croyons en lui bien que nous ne l'ayons pas vu, bien que nous ne l'avons pas nécessairement entendu audiblement, c'est-à-dire par une voix extérieure. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on comprenne que Dieu aime se faire entendre et Dieu aime se faire voir et Dieu aime se faire découvrir, mais bien sûr toujours dans le contexte d'un très grand respect, d'une très grande sainteté. Que disent donc les Écritures sur ce fait de lever la couverture, d'enlever le voile, de dévoiler, de révéler? Qu'est-il arrivé, frères et sœurs, au voile du temple lorsque Jésus est mort? Le voile du temple n'a-t-il pas été ouvert de façon surnaturelle? Je reprends. Dieu désire se révéler. Il a déjà fait connaître une partie de lui-même. Ce qu'il a révélé de lui est précieux. Voyons Deutéronome 29. Ce verset est écrit vers la fin de la composition des cinq premiers livres des Saintes Écritures qu'on appelle la loi de Moïse, la Torah de Moïse. Et qu'est-ce que l'auteur nous dit? Deutéronome 29, verset 29. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette Torah, de cette loi, de cette instruction. Donc, Dieu dit, par l'intermédiaire de Moïse, que à partir des cinq livre de Moïse, il y a des choses qui sont révélées. Il en reste encore qui sont cachées de Dieu, mais une certaine partie sont révélées. Et c'est pour ça que nous apprécions. Hein? Ce verset déclare au fond qu'il y a des choses qui pourraient nous rester cachées, mais ça appartient à Dieu de les garder cachées ou de décider de les partager éventuellement en les dévoilant. Et nous savons que Dieu en a dévoilé d'autres. Nous savons que Dieu n'avait pas terminé de se révéler parce que nous avons ensuite reçu les prophètes, nous avons reçu les autres écrits, nous avons reçu la bonne nouvelle selon quatre différents témoins. Nous avons reçu la description de l'œuvre de l'Église au premier moment. Nous avons reçu les lettres de Paul et les lettres de Jean et de Pierre et de Jacques et de Jude. Et enfin, nous avons reçu la révélation. Les choses qui nous sont révélées sont pour nous. Comment Dieu a-t-il fait en sorte qu'elles soient à perpétuité, parce que vous savez, ce n'est pas basé sur nous qu'il a fait en sorte qu'elle soit perpétuité, mais il l'a fait quand même pour nous. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il y a eu des époques où les gens ont oublié, où même on a essayé de détruire ces révélations. L'histoire est empreinte de moments où les hommes se tournent contre cette révélation. Heureusement que Jésus-Christ a fait une promesse qu'on connaît très bien. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Elles sont pour vous à perpétuité. Mais là, Jésus va nous parler, plusieurs années plus tard, une parole étonnante. On va se reporter, si vous voulez, selon Matthieu, chapitre 10, verset 26. En parlant des situations difficiles, en parlant de persécution, je ne sais pas si vous avez remarqué que un des cantiques que nous avons chanté parlait justement que Dieu nous fortifiait dans les persécutions, dans l'oppression. Et Jésus dit ceci dans l'oppression, il dit « Ne les craignez donc point, ne craignez pas les hommes agressifs, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert. » Et là, le mot « découvert », c'est le même que « révélé », « mise à nu », « mise à la lumière ». Ni de secrets qui ne doivent être connus. Donc, il y a quand même un rapport entre les choses cachées, découvertes ou dévoilées, et les secrets qui sont connus. Et ici, bien sûr, on parle dans le contexte surtout des choses cachées des hommes, mais juste après, Jésus-Christ nous parle que ces choses-là, vous pouvez le dire de vive voix. Alors, il parle aussi de la bonne nouvelle, qui parle aussi des secrets de Dieu qui peuvent maintenant être partagés. J'espère que vous me suivez parce que nous allons aller maintenant à la première lettre aux Corinthiens, chapitre 2, verset 9. La première lettre aux Corinthiens, chapitre chapitre 2, verset 9 à 10. C'est Paul, encore une fois, qui certainement, comme vous le savez, on va le voir tout à l'heure un peu, est un de ceux qu'on sait qui a reçu de la part de Dieu d'énormes révélations. Donc, il peut nous guider dans cette compréhension de qu'est-ce que Dieu veut lui transmettre par la révélation. Il dit ceci au verset 9. « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues. » Donc, oui, nous n'avons pas vu certaines choses. L'œil humain ne peut pas voir Dieu dans toute sa gloire. « Que l'oreille n'a pas entendu et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. » Donc, il y a des choses cachées encore. Oui, mais regardez la suite. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Et regardez le verset 10. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Frères et sœurs, nous ne sommes pas les seuls à lire la parole de Dieu. Nous ne sommes pas les seuls à comprendre certaines choses de la parole de Dieu. Parlez avec un enfant qui n'a pas l'esprit, lisez-lui l'histoire de la sortie d'Égypte et il va vous poser des questions intelligentes sur le texte, avant bien sûr que d'autres gens commencent à se moquer peut-être de lui. Mais nous, frères et sœurs, Dieu nous a révélé des choses par l'Esprit, c'est-à-dire beaucoup plus que juste la réalité des histoires bibliques, mais plutôt ce que Dieu, c'est le Dieu qui est derrière ces interventions dans l'histoire que l'Esprit nous révèle. C'est l'auteur de ces Écritures que Dieu veut nous faire rencontrer, c'est-à-dire lui-même. Car, regardez, l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Et regardez le temps du verbe. L'Esprit sonde tout. Présentement, lorsque je suis en train de parler et que vos esprits, n'est-ce pas, sont animés par la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu en nous est en train de sonder la pensée de Dieu, la réalité de Dieu. L'Esprit de Dieu sonde les profondeurs de Dieu. Dans quel but? n'est-ce pas dans le but de croître dans la grâce et la connaissance de Jésus-Christ? Notre Père a-t-il d'autres choses précieuses dans ses trésors pour nous? Les bontés et les révélations de Dieu sont-elles épuisées? Et je pense que vous reconnaissez là une des paroles du livre des Lamentations que Jessica nous a chanté. Les bontés et j'ajoute les révélations de Dieu sont-elles épuisées? Est-il raisonnable, frères et sœurs, de croire que notre Père aimerait encore communiquer des richesses cachées concernant son Fils et son amour pour nous? Voyons un peu comment Dieu maintenant s'est révélé pour que nous puissions reconnaître ce processus qui est entamé avec nous aussi. Comment Dieu s'est-il révélé? Par son choix de personne à qui il veut bien se révéler. En choisissant certaines personnes dignes de confiance pour partager ses pensées, ce qu'il a à cœur, ce qui est le plus important pour lui, ses projets, ses intentions et son être. Il s'est approché de ces quelques personnes et il les a laissés s'approcher de lui. Une des expressions que la parole de Dieu utilise, qui est parallèle au mot révélation, c'est qu'il est apparu. L'hébreu dit tout simplement, il s'est montré. Non pas qu'il a montré des choses, mais il s'est montré. Il est apparu. Il est apparu à Abraham, par exemple. Il s'est montré. Le mot parallèle, c'est révélé. Et on va voir encore une fois quelques exemples. Rapidement, quelques exemples. Genèse 28. Voyons l'exemple vécu par Jacob. Ça devrait nous encourager, cet exemple-là. Parce que ça montre que le choix de Dieu est le choix de Dieu et que ce n'est pas basé toujours sur ce qu'on pense, comme l'a dit dans la sermonnette, ce que nous, on pense de Dieu ou ce qu'on pense de nous-mêmes. Regardons ici Genèse 28. Vous connaissez l'histoire. Jacob avait quand même une qualité, dans un sens, c'est qu'il aimait les choses de valeur. Il aimait les choses de valeur. Il avait une certaine confiance que le droit d'aînesse est important, que les promesses de Dieu, comment il pouvait les comprendre, est important. Mais là, il vient d'extorquer la bénédiction à son père en lui mentant carrément. J'espère que ça vous va. Et là, il fuit son frère parce que c'est à lui qu'il l'a extorqué, parce qu'il est en danger de mort. Et d'ailleurs, sa conscience probablement le trouble un peu. Il est en fuite. Il partit de Beersheba et s'en alla à Charan, du moins vers Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet. Donc, il est fatigué. Il s'installe comme il peut. Et il se coucha dans ce lieu-là. Genèse 28, verset 12. Il eut un songe. Il fit un rêve. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et regardez donc que c'est un songe, mais était-ce son songe ou était-ce plutôt un songe de communication de la part de Dieu? Bien, il est dit au verset 12 au milieu, « Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. » Donc, il voit dans un certain sens un élément du céleste, il voit des anges, et il voit un pont entre le ciel et la terre par les anges. Et verset 13, il voit encore plus. Il voit, parce que voici, ça veut dire ça, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, était au haut de l'échelle, et il l'entend enfin. Il entend Dieu dire, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, ton grand-père en fait, et le Dieu d'Isaac. Tu es le troisième en ligne. » Et là, c'est là que suivent des paroles de promesse, des paroles d'encouragement, des paroles positives dont Jacob avait besoin. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Alors, il n'est pas encore rendu à Charan, il est seulement dans un endroit qui finalement portera le nom de Bethel, maison de Dieu. Ta postérité, verset 14, sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion midi, donc vers les quatre points cardinaux. Et la fameuse promesse qui revient, toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. En toi, Jacob, parce que moi, je vais travailler avec toi. D'ailleurs, je travaille avec toi. Et tu vas travailler avec moi, parce qu'il y a des choses à changer chez toi, parce qu'il y a des choses que tu dois comprendre de moi. Et un jour, ton nom deviendra Israël, combattant avec Dieu. Et en ta postérité aussi, parce que de toi, éventuellement, sortira le Messie. Verset 15, « Voici, je suis avec toi, comme on l'a entendu. » Il l'a dit à Josué aussi. Josué, excusez-moi, aurait pu dire, je suis un petit peu méchant là. Il aurait pu dire, « Regardez Josué, moi je n'ai pas besoin que Dieu me parle parce que, de toute façon, il l'a déjà dit à Jacob qui va être avec lui. Donc, c'est acquis qui va être avec moi. » Pourquoi Dieu l'a-t-il répété à Josué, frères et sœurs? N'est-ce pas parce que Josué en avait besoin, que ça vienne directement à lui, de Dieu? Soyons un peu honnêtes, frères et sœurs. « Car je ne t'abandonnerai pas que je n'ai exécuté ce que je te dis. » Ce que nous faisons, frères et sœurs, c'est reconnaître notre besoin que les Saintes Écritures nous parlent vraiment. Que Dieu nous parle vraiment. Par l'Esprit Saint, vraiment. Ici, Dieu ne fait pas que parler à Jacob dans son rêve. Il lui révèle d'abord son royaume, d'où les anges établissent le contact avec la terre en y montant et en descendant par une échelle. Ensuite, les paroles de promesse sont faites par un Dieu qui a d'abord monté la réalité du règne de Dieu. Cela veut dire que bien sûr, si Dieu ouvre les yeux de Jacob, c'est parce que Dieu est en train de se laisser découvrir. Il est en train de s'investir dans un projet porté par un homme du nom de Jacob. C'est Dieu qui se dévoile. Il a choisi une suite de trois générations pour établir une grande postérité, afin de bénir par Abraham, Isaac et maintenant Jacob toutes les familles de la terre. Est-ce que ça nous parle? Est-ce que nous sommes conscients que Dieu veut bénir par nous aussi, qui sommes de cette postérité parce que nous sommes de la foi d'Abraham? Nous avons cru en la postérité qui est Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes conscients que Dieu veut bénir les familles de la terre? Et regardez qu'il s'agit vraiment de révélation, Genèse 35, verset 1. Et c'est répété au verset 7. Pour confirmer, Dieu dit à Jacob, « Lève-toi, monte à Bethel. » Ça, c'est après plusieurs années, au moins 14 ans. Jacob reçoit une intervention de Dieu. Dieu parle à Jacob. Il lui a déjà parlé, il lui parle encore. « Monte à Bethel, demeure-y, et là tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut. » Un synonyme de révélation. « Lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. » Tu te souviens? comment tu ne te sentais pas gros dans tes culottes? Verset 7, il bâtit là un autel, il appela ce lieu El Bethel, car c'est là que Dieu s'était révélé, dévoilé, ouvert, s'était laissé fait découvrir à lui lorsqu'il fuyait son frère. En se faisant voir, frères et sœurs, à Jacob, Dieu s'était révélé. Il a levé le voile sur sa personne. Il s'est laissé voir en dévoilant son intérêt pour un être humain rusé, menteur, avec l'espoir de voir Jacob participer à sa propre transformation en un fidèle et honnête serviteur de Dieu. Dieu n'a-t-il pas agi ainsi en révélant à nous, en œuvrant en nous, n'a-t-il pas révélé lui et son fils Jésus? N'ont-ils pas œuvré à nous appeler, à nous choisir, à nous purifier, à nous transformer de l'intérieur pour un jour nous transformer, on pourrait dire, dans tout notre corps? Matthieu 11, je ne vais pas m'y reporter, je vais le lire pour vous, l'Évangile selon Matthieu 11, versets 25 à 28. Est-ce que nous sommes reconnaissants? Est-ce que nous sentons cette bonté se renouveler chaque matin de cet appel que Dieu nous a fait en disant, Dieu, je ne sais pas, je ne me sens pas bien aujourd'hui, je suis peut-être découragé, mais une chose certaine, merci que je suis encore vivant. Merci que j'ai la présence d'esprit de me rappeler que tu m'as appelé un jour. En ce temps-là, je cite Jésus. D'abord Matthieu qui parle de Jésus. Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Nous étions des enfants lorsque Dieu nous a appelés. Nous avions quelque chose de l'enfant. Verset 26, « Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et à celui à qui le Fils veut le révéler. » Le Fils a voulu révéler le Père à nous et le Père a voulu nous appeler en conformité avec le désir de son Fils. C'est un travail de complicité incroyable qui a fait que nous sommes à l'écoute aujourd'hui encore. Et verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Le but de l'appel, c'est de nous donner aussi du repos. Du repos. Maintenant et du repos éternel éventuellement, bien sûr, dans le sens que la vie éternelle. Dieu n'a-t-il pas travaillé pour nous donner du repos? N'a-t-il pas, depuis ce jour, investi en nous sa patience, son espoir, son amour pour nous, afin de nous transformer en vue d'être nommés au retour de Jésus-Christ, chacun d'entre nous, bon et fidèle serviteur? Il y a plusieurs autres exemples de révélation. Je vais simplement faire référence. À Samuel, il s'est révélé. Prenez note, parce que c'est là qu'on retrouve ce gala en action. Ce n'est pas le gala des Oscars, là, c'est le gala de Dieu. C'est le grand dévoilement de Dieu. 1 Samuel 3, verset 7, verset 21. 1 Samuel 3, verset 7. Et verset 21, lorsqu'il est étonnant, on voit Jésus-Christ, l'Éternel, qui se révèle à un jeune garçon. Et il se révèle d'une façon assez étonnante en s'adressant à lui pendant son sommeil, mais c'est surtout ce qu'il révèle qui est difficile. Il lui révèle une catastrophe qui s'en vient sur celui qui prend soin de lui, sur le souverain sacrificateur Élie de l'époque, une catastrophe qui va frapper aussi ses deux fils qu'il côtoie tous les jours. Parfois, la révélation est loin d'être facile, mais Dieu veut partager ses projets. À David, Oui, il y a plusieurs éléments, mais c'est vrai que là, on a affaire à une belle révélation. Il révèle à David qu'il ne manquera pas de roi sur le trône, de tirer de ses reins à lui, c'est-à-dire de successeur physique, jusqu'à ce que le roi des rois possède ce royaume, cette royauté. Différentes personnes, différentes révélations. Bien sûr, on sait que David a reçu aussi de Dieu beaucoup de révélations concernant l'expression de Dieu dans son rapport avec l'homme. Et les psaumes sont à la fois l'expression de Dieu vis-à-vis de l'homme et l'expression de l'homme vis-à-vis de Dieu, que Dieu approuve, que Dieu reçoit, que Dieu consacre. Au vieux Siméon, plus tard, beaucoup plus tard, alors qu'un petit enfant est apporté au temple, Dieu lui révèle que, waouh, lui qui avait reçu une parole, qu'il ne mourrait pas sans avoir vu le Sauveur, le voilà que Dieu lui dit, il s'en vient, il est là, prends-le dans tes bras. C'était Jésus de Nazareth, fils de Joseph et de Marie. Et il appelle ce fils-là la lumière pour la révélation des nations. Pierre, Jacques et Jean sont appelés. En passant, je vais vous donner peut-être la référence. Pour David, pour le mot révélation, 2 Samuel 7, 27. Pour David, 2 Samuel 7, 27. Pour Siméon, Luc 2, 32. Pour Siméon, Luc 2, 32. Pierre, Jacques et Jean. Hein, on a l'expression Pierre, Jean, Jacques, mais en fait, on le replace dans l'ordre. Pierre, Jacques et Jean reçoivent une révélation. Vous allez dire, ben oui, tous les apôtres. Non, non. Eux, ils ont une révélation que les autres n'ont pas. Ils sont amenés à part. Dieu veut parler à eux en particulier. Dieu a le droit de se dévoiler à qui il veut. Il choisit qui il veut. Il a choisi ces trois. Ils ont payé de leur vie cette révélation. En fait, ça l'a supporté. Ça l'a donner une signification très profonde à leur vie. Ça les a soutenus dans les épreuves incroyables. Quelle était cette révélation? C'est d'avoir vu Jésus-Christ se métamorphoser devant eux, c'est-à-dire, on a le mot transfiguré. C'est comme si ce Jésus humain était devenu, devant leurs yeux, divin, glorieux. Ça n'arrive pas toujours à tout le monde, ces choses-là. Mais d'un autre côté, ça montre le désir de Dieu de montrer des choses à ses enfants. C'est important pour Pierre parce qu'il va en parler dans une de ses lettres. Il va en parler en disant qu'il se souvient de cette révélation. Mais regardez jusqu'à quel point il veut en transmettre le fruit. C'est dans sa première lettre, au chapitre 4, versets 12 à 13. Parce que Pierre a compris quelque chose. Un jour, nous serons glorifiés de la même gloire que Jésus a démontrée sur le mont qu'on appelle de la transfiguration. Pourquoi Pierre a eu le courage d'avancer? Pourquoi Pierre a eu le courage de faire face à la mort? Parce qu'il a eu cette révélation. Bien-aimés, ne soyez pas surpris, dit-il, comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la COVID. Ça, ce n'est pas une grosse fournaise. De la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Première lettre de Pierre, chapitre 4, versets 12 à 13. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances du Christ. Vous êtes en train de comprendre la révélation. Vous êtes en train d'être associé à la révélation d'un Christ souffrant. En passant, la citation de Jean, de Ésaïe. Je ne sais pas si vous avez remarqué quand il dit « Qui a vu, à qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? C'est une citation du premier verset d'Ésaïe 53, 1. Ésaïe 53, 1. Je pense que je l'ai mentionné, mais c'est le chapitre du serviteur souffrant. Alors ici, nous participons au serviteur souffrant. Afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra ou se révélera dans le texte original. Il va ajouter que lui-même, on ne s'y reportera pas, mais juste quelques versets plus loin, 5.1, il va parler que lui est sûr d'être participant de la gloire qui sera manifestée. Il est sûr de ça. Il l'a vu sur la montagne, il a compris que ça s'adressait à lui. Ce qu'il a vu de Jésus s'appliquera à lui. Voyons un peu Paul maintenant, parce que nous allons focusser maintenant sur, voyez, nous arrivons à Paul, là, celui qui a prié. Paul a reçu de puissantes révélations qui l'ont conduit de Damas, en Arabie, jusqu'à Jérusalem et jusqu'à Rome. Voyons d'abord la lettre aux Galates. On va se reporter 1, verset 11. Je vous déclare, frère, Galates 1, 11. C'est une déclaration, c'est quelque chose d'important. L'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme. Pourquoi Jésus-Christ a comme recommencé à enseigner l'Évangile à nouveau après sa résurrection à un homme alors qu'il n'avait déjà formé au moins 12? Il y avait tous ceux, les autres disciples qui avaient vu les miracles et tout ça. Est-ce que sa banque de données était limitée ou est-ce qu'il voulait faire quelque chose qui lui appartenait, se révéler en tant que être glorifié d'une certaine façon après sa résurrection. C'est différent. Il dit, je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Alors, frères et sœurs, c'est parfois, on a de la difficulté à comprendre les Saintes Écritures. Demandons-nous l'esprit de révélation. Jésus a communiqué directement à Paul par révélation depuis le troisième ciel la réalité de la bonne nouvelle du règne de Dieu pour lui, pour le convaincre lui. Il a été tellement convaincu qu'il l'a partagé. Il lui a communiqué aussi des révélations divines à des moments clés de son parcours. Paul continue son témoignage au chapitre 2 de cette même lettre de Galates. Versets 1 à 2, pour montrer que les révélations de Dieu ne sont pas épuisées. 14 ans après, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi, et ce fut d'après une révélation que j'y montai. Ce n'est pas ma décision. Oui, j'ai participé, oui, j'ai dit oui, mais j'avais besoin d'une révélation. Le même apôtre qui a eu des révélations d'excellence, dont il se sentira forcé de mentionner, va montrer que Dieu désire toujours communiquer des révélations par l'entremise de ses saints. Là, on s'approche de la prière de Paul. Regardez bien. Puisque Dieu désire se révéler aux hommes en général, est-il raisonnable de penser qu'il veut communiquer sa révélation à chacun de ses enfants? Dieu veut-il nous donner directement ses révélations selon son bon plaisir? À nous? Allons voir dans la lettre aux Corinthiens, chapitre 14, verset 6. Et ensuite, première lettre aux Corinthiens, chapitre 14, verset 6, et ensuite le verset 26, et ensuite le verset 30. Lire tout l'ensemble. Maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je, écrit-il aux Corinthiens, si je venais à vous en parlant langue, Et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par enseignement? Ici, la révélation transmise par Dieu à Paul pour les Corinthiens est listée avec la connaissance, la prophétie, l'enseignement. Ces éléments appartiennent-ils seulement aux temps anciens? La révélation a-t-elle cessé avec eux? C'est-à-dire, oui, dans un sens, le livre de l'Apocalypse, qui est la révélation des révélations, ça c'est moi qui ajoute, a clos les Saintes Écritures. Mais Dieu a-t-il terminé de parler à son peuple? Elle s'est terminée de se dévoiler? Voyons le verset 26. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Si ces choses arrivent, que tout se fasse dans un but pour l'édification, pour construire le corps de Christ. Ici, Paul, donc, s'attend à ce que les frères à l'Assemblée partagent plusieurs choses pour s'édifier les uns les autres, un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation. Je vais expliquer un petit peu qu'est-ce que, dans un sens concret, ça veut dire. Nous allons prendre quelques minutes pour ça. Mais nous voyons que Dieu, ici, continue à envoyer une révélation comme il peut inspirer un cantique, une instruction, une langue, une interprétation. Qu'est-ce qui empêche Dieu de communiquer à ses enfants un cantique nouveau, exprimant la profondeur et la joie de Dieu? Nous avons eu, il y a quelques minutes, Jessica Hendrickson qui a chanté un extrait des Saintes Écritures tel que l'Écriture l'a touché. Si l'Écriture ne l'avait pas touché, nous ne l'aurions pas par la bouche de Jessica. Est-ce que vous comprenez comment Dieu veut animer sa révélation, veut s'animer en nous? Il veut que ça devienne de plus en plus un échange intime entre nous et Dieu. Qu'est-ce qui empêche l'Esprit de Dieu en nous de sonder les profondeurs de Dieu? N'est-ce pas nous-mêmes, par manque de recherche de ces dons de Dieu? N'est-ce pas par les limites que nous imposons à l'œuvre de Dieu en nous, par notre manque de foi et de compréhension? N'est-ce pas parfois notre peur d'être jugé comme différent, excentrique? N'est-ce pas non plus pour prévenir l'orgueil, par prévention d'orgueil? Plusieurs raisons peuvent comme nous limiter dans notre désir d'avoir cet esprit de révélation. Voyons maintenant le verset 30. Pour montrer que c'est un phénomène qui était actif dans l'assemblée de Dieu, dans le peuple de Dieu. Et si un autre qui est assis pendant l'assemblée a une révélation, que le premier se taise. Donc, il y avait quelque chose de spontané qui se passait parfois, du moins à Corinthe. On peut dire au moins à Corinthe. Mais c'est quand même dans l'Écriture pour notre édification. Il y a comme un désir, peut-être que j'espérerais, que Dieu veut réveiller en nous en disant, est-ce que vous aspirez à sentir que vous comprenez la parole de Dieu d'une façon plus active, d'une façon plus sensible? Donc, on voit ici une activité spirituelle animée par l'Esprit qui était partagée dans l'Assemblée à Corinthe. Paul donne des instructions pour que cela se fasse dans l'amour et dans le respect. Mais on voit une certaine inspiration du moment. Afin de se dévoiler, on arrive vers la conclusion. Dieu doit surnaturellement dévoiler les yeux de notre cœur. Il doit y avoir quand même un miracle qui doit s'opérer en nous. Il doit nous déceler nos paupières spirituelles. Pour progresser dans l'application des choses révélées de Dieu, Le cœur de l'homme doit aussi être dévoilé à son tour, circoncis. Ça se fait réciproquement. Nous nous dévoilons à Dieu et Dieu se dévoile à nous. Et nous avons besoin de lui. Le psalmiste, psaume 119, ce sera notre dernière écriture. Nous aurons quelques mots pratiques, mais la dernière écriture, psaume 119, verset 18. Le psalmiste, désirant connaître le cœur, les pensées et l'auteur des Saintes Écritures, prit ceci au psaume 119, verset 18. Il avait devant lui les rouleaux de la Torah, mais il dit, « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de tes instructions, de ta loi, de ta Torah. Découvre, dévoile, dessine mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Et frères et sœurs, ça doit être dans les petites choses comme dans les grandes. Les petites choses, c'est rechercher à recevoir davantage de révélations de Dieu dans les mots de sa parole, les mots qu'il a pour vous, qu'il réveille, qu'il enligne ces mots-là pour vous. Les petites choses, c'est aussi être à l'écoute de la création de Dieu, parce qu'il est dit que c'est sa nature cachée est révélée dans son ouvrage. Quand est-ce que c'est la dernière fois que vous avez vu Dieu dans son ouvrage? À la maison, à un moment donné, vous avez vu une plante, vous avez vu un regard d'un chat et ça vous a, excusez-moi, parlé, ça vous a parlé. Dans les enfants, nous avons souvent la révélation de Dieu, encore plus dans les enfants de Dieu. Dans les louanges, les psaumes, les louanges spontanées, la combinaison des psaumes avec quelque chose qui vous parle, Dieu se révèle. Se révéler pourquoi? Pour notre joie. On en a-tu besoin de la joie? Moi, j'en ai besoin. Pour notre paix. Est-ce que j'ai besoin de paix? J'ai besoin de paix. Pour notre subsistance, et je dirais même pour notre survie, éventuellement pour notre vie. Nous avons besoin, comme Josué, qu'on nous répète les paroles qui ont été dites à Jacob, que ça vienne de Dieu. Que ce soit Dieu qui nous le dise à nous personnellement. Ce phénomène de l'Esprit de Dieu en nous, qui sonde les profondeurs de Dieu, c'est d'être réceptif à ce que Dieu se dévoile encore davantage à chacun de nous. Appuyons-nous, en conclusion, sur la prière qu'a faite Paul et que Dieu a consacrée dans les Saintes Écritures. Prions les uns pour les autres pour cet esprit de révélation. Que Dieu nous ouvre les yeux et que nous puissions découvrir de jour en jour sa révélation et la reconnaître quand elle passe, quand elle frappe à notre porte.